Bonjour chers frères et sœurs, je vais tout de suite me décharger des salutations de l'église de Colombes qui savent que je suis ici ce matin, puisque je ne suis pas au milieu d'eux. L'église de Colombes est une vieille église, c'est vrai qu'elle a été fondée en 1903, et le bâtiment est arrivé après. Ce n'est pas le bâtiment qui compte, c'est d'abord l'église, les personnes. Et par la grâce de Dieu, on est encore là aujourd'hui. Quand une église vieillit, il peut y avoir des problèmes. Il ne faut pas qu'on vieillisse dans nos cœurs, en tout cas. Il faut qu'il y ait un renouvellement. Le Seigneur nous aide aussi. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, continuer d'annoncer l'Évangile, comme vous le faites ici, dans la région de Saint-Denis. Et puis, il y a l'extension du Grand Roissy aussi, que nous soutenons par la prière. Nous pensons à vous dans la prière. Nous savons que le combat est partout le même. Il y a parfois des variantes, bien sûr, mais sur le fond, c'est toujours le même combat. C'est le bon combat de la foi. Pour dire rapidement comment je me suis converti, ça fait un certain temps que je me suis converti par la grâce de Dieu. En fait, moi, quand j'étais enfant, je croyais en Jésus, je croyais en la résurrection. Le problème n'était pas là. Pour moi, c'était évident que Dieu pouvait ressusciter les morts, par exemple. Il y a des gens qui se posent des tas de problèmes sur la résurrection. La parole de Dieu ne me posait pas de problème, mais j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Mon père était pasteur, mais il m'a fait comprendre qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. C'est quelque chose d'important. On peut être né dans une famille chrétienne et après complètement tout rejeter. Et Dieu m'a fait la grâce de croire, je peux le dire comme ça, il m'a arrêté, parce que moi j'aurais fait n'importe quoi. Mais je crois à beaucoup de choses dans la Bible, je crois à la résurrection, à tout ça, mais je crois à la création, par exemple, que Dieu a fait la création en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e, c'est important pour moi. Mais ce n'est pas à cause de ça que je me suis converti d'abord, c'est quand j'ai compris que j'étais pécheur. Pécheur devant Dieu. Et ça a été très simple en fait. Et des gens, c'est comme, je ne sais pas, si vous allez dans certains pays, il y a des grandes résurgences, c'est quelque chose qui bouillonne. Pour moi, ça a été quelque chose de tout petit, que ça a commencé de façon presque infime. C'était dans ma chambre, un soir, je lui ai demandé pardon à Dieu. J'avais fait encore des bêtises qu'il n'y a pas besoin de raconter. Mais j'ai compris que j'étais pécheur. Et après, Dieu m'a pris. Même si j'ai pas tout compris, parce que j'avais beau être d'une famille de pasteurs, on sait pas tout. On sait un certain nombre de choses dans la tête, mais dans la vie pratique, d'abord j'étais assez naïf, donc face au monde. Mais Dieu m'a, Dieu m'a gardé, Dieu m'a arrêté plusieurs fois. Il s'est mis en travers de ma route. Je suis très reconnaissant. Dieu m'a pas laissé faire ce que je voulais. J'avais des idées. Je voulais jouir du monde. Dieu m'a quand même donné un certain nombre d'avertissements. Moi, on n'était pas une famille riche. On avait quand même une maison. C'était mes grands-parents qui étaient des réfugiés, qui l'avaient construit. Il y a des gens qui sont réfugiés ici aussi, ils savent ce que c'est, je pense, du Sri Lanka ou d'autres pays. Et la vie difficile. Mais de ma fenêtre, donc on n'était pas riche, mais il y avait la paix dans la maison. Je voyais en face le voisin qui rentrait sur son Solex, qui battait sa femme. De ma fenêtre, je voyais tout ça. Et j'ai compris un certain nombre de choses lentement. Et il y a aussi, Dieu m'a donné des avertissements. J'avais des témoignages dans ma famille de chrétiens. J'avais aussi des témoignages dans l'Église. Il y a des gens qui se plaignent que les chrétiens ne témoignent pas toujours. Mais moi, je peux dire, j'ai vu des chrétiens témoigner. J'ai eu de bons témoignages. Et Dieu m'a dit, si tu ne tiens pas compte des témoignages, fais attention. Tu rentres sur une route, tu ne sais plus ce qu'il y a derrière. Il ne faut pas se moquer de Dieu, ça je l'ai compris dans mon cœur. Dans un certain sens, j'étais déjà converti à ce moment-là, mais on a des tentations sur la route quand on est jeune, parce que je me suis converti, j'avais 15 ans. Assez curieusement, je sais que c'est un 4 janvier que je me suis converti, mais je me souviens plus quelle année, j'ai pas noté. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Je pense que j'avais 15 ou 16 ans, en tout cas, c'était donc j'étais tout jeune. Naïf par rapport au monde, et en même temps, le monde a son côté séducteur. Mais donc, Dieu m'a arrêté. Je me souviens, pour prendre un exemple concret, c'était quand là j'étais un peu plus âgé, je rentrais, je travaillais assez loin. Je prenais le train. À l'époque, on pouvait prendre les trains en marche. Vous voyez, maintenant, c'est interdit. Mais on montait dans le train en marche. Et un jour, j'arrivais, le train était en train de démarrer. Le chef de gare, il s'est mis en travers de la route. Comme ça, il m'a empêché. Sur le coup, j'étais pas content parce que c'était 3/4 d'heure d'attente, hein, le train suivant. Et après, je me suis dit, il a bien fait de m'arrêter. Et avec Dieu, c'est parfois, il se met en travers de la route, comme ça. Parfois, c'est des chrétiens que Dieu utilise pour se mettre en travers de notre route. Et puis, Dieu nous arrête. Et après, on est reconnaissant. Parce qu'on réfléchit quand même un petit peu. Et puis, Dieu nous parle aussi par sa parole. Et on sait que quand Dieu nous arrête, c'est que Dieu nous aime. En fait, c'est Dieu que nous prouve son amour. La vie après, bon, je me suis engagé dans l'Église, j'ai été baptisé. Et puis la vie a pris son cours. Il y a eu dans l'église de Colombes, j'ai pris ma place, si j'ose dire. J'aidais mon père tant qu'il était vivant, mais mon père est mort relativement jeune, pas très jeune. Il avait 61 ans, mais bon, cancer, ma mère aussi cancer. Et tout ça, on est chrétien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve. La Bible le rappelle. On n'est pas à l'évangile de la prospérité. Il y a des gens qui disent, convertissez-vous, tout va être réglé. Dieu vous donnera des enfants, Dieu vous donnera une maison, Dieu vous donnera du travail. Oui, Dieu. Le travail, c'est la volonté de Dieu qu'on travaille, donc Dieu exauce aussi. Mais la maladie, on sait que dans la parole, il y avait des chrétiens qui étaient malades. Vous connaissez l'expression « j'ai laissé Trophime malade à Milet ». Pourtant, Paul, il avait le don de guérison et toutes ces choses-là. Mais il ne le faisait pas de façon systématique. Élisée, dans l'Ancien Testament, qui a ressuscité des morts, il est mort de maladie. C'est des choses comme cela. La vie dans l'Église m'a amené à m'engager et puis donc à devenir prédicateur. J'ai pas fait d'école pour devenir prédicateur. J'ai été élevé sur le terrain à ce niveau-là. J'avais mon métier à côté, mais il a fallu s'engager dans l'Église. J'avais un métier qui me donnait quand même suffisamment de liberté pour pouvoir m'engager dans l'Église, pour pouvoir veiller. Et donc ça, c'était pratique. La vie d'église, c'est une vie de groupe, vous savez ce que c'est, avec ses joies et ses difficultés. L'église de Colombes dont je parlais a eu ses joies et ses difficultés dans son histoire. Il y a eu des heures glorieuses et puis il y a eu des heures sombres, on peut dire. Il y a eu des divisions, il y a eu des choses comme ça, que Dieu vous en garde. Mais l'adversaire travaille. On se convertit après par habitude. Quand on est enfant de chrétien, moi je suis enfant de chrétien, il faut qu'on fasse l'expérience que c'est pas une routine d'être chrétien, c'est un engagement personnel. Dans les églises, les grandes églises, on se fait baptiser bébé, il y en a d'autres, c'est un peu plus tard. On se fait baptiser parce que tout le monde se fait baptiser. Parfois dans les églises évangéliques, ça peut arriver aussi, qu'il y ait ce phénomène. Bon, les parents sont chrétiens, on croit globalement, mais il n'y a pas d'engagement personnel, il n'y a pas de réaction face au péché, il y a le monde qui est là, qui nous tente, et puis on fait un certain amalgame. Eh bien, le chrétien doit faire attention, chacun dans sa vie. On fait ses expériences. J'ai fait des expériences quand j'étais jeune, mais ce n'est pas que quand on est jeune qu'on commet des péchés ou qu'on se laisse piéger. Moi j'aimais bien les choses de type mathématiques, les jeux de réflexion et les choses comme ça. Il n'y a pas de péché à faire un jeu de réflexion, mais il y a un moment donné où ça prend trop de temps. Alors il faut savoir dire stop, par exemple, et puis dire bon, bah, j'arrête, et puis c'est tout. J'ai mon temps, il appartient aussi au Seigneur, et chacun doit en faire l'expérience. Je ne suis pas en train de vous dicter ce que vous devez faire. Faites vos expériences avec Dieu. Je pense que c'est là des convictions personnelles qu'on doit avoir, des convictions fermes qui se développent avec l'expérience chrétienne. Autre chose, bon, j'ai été marié, ma femme est là, et puis on a eu des enfants, donc les enfants, ça prend du temps, on ne dort pas bien la nuit, etc., mais on lit un peu moins la parole. Et au bout d'un certain temps, je me suis aperçu que, on prêche, c'est bien, mais si on ne lit pas la parole, qu'est-ce qu'on va prêcher? On va prêcher peut-être des idées, des choses comme ça. Il faut se nourrir de la parole, c'est une sécurité. Comme aller à la Réunion, je ne sais pas si vous avez toujours envie d'aller à la Réunion, si c'est toujours le cas, tant mieux pour vous, mais parfois on est grincheux, on se lève du pied gauche, etc., pour utiliser les expressions. La sécurité, c'est d'aller à la Réunion, surtout ce jour-là. Si on est content, tant mieux, mais si on n'est pas content, il faut aller à la Réunion. Pourquoi ? Même des gens du monde me l'ont dit, on vient chez vous, on ressort, on est tranquille, on est apaisé, etc. Alors si les gens du monde sont apaisés, à combien plus forte raison nous, chrétiens ? Et j'ai senti combien de fois la bénédiction de Dieu à obéir à sa parole. L'obéissance, la discipline est une sécurité spirituelle. Et dans la lecture de la parole aussi. La parole, il est bon de s'en nourrir, c'est vraiment une joie. Et en même temps, ce qu'on reçoit, après on peut le donner aux autres. Voilà quelques éléments de mon expérience. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être dites, mais nous allons maintenant ouvrir les Écritures. J'ai commencé à préparer, quand je prêche à Colombes, je prépare en général au maximum la veille, mais là, c'était une responsabilité pour moi. C'est la première fois que je me trouve chez vous à prêcher, je suis un peu ému aussi à cause de cela. Donc, on va lire deux versets. D'abord, on aura d'autres lectures dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22. Luc, au chapitre 22, nous lirons les versets 31 et 32. Je pense que c'est un contexte que chacun connaît bien. On est dans le cadre des derniers jours de Jésus avant des dernières heures de Jésus avant sa crucifixion. Et donc Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Merci. Ce passage est un passage qui est important parce qu'on est des chrétiens, mais donc on le sait tous, on doit passer par des épreuves. À ce moment-là, Pierre n'était pas encore, on peut dire, converti. Le Seigneur Jésus dit converti, remarquez, on peut aussi traduire par revenu. Pierre avait déjà la foi en Jésus-Christ. Jésus parle de ta foi. Hein, les choses sont claires à ce niveau-là. Et ce passage nous rappelle un principe fondamental de la parole, c'est qu'il y a la nécessité de l'épreuve de la foi. Toute la parole parle de ces épreuves. Personnellement, j'aime énormément le livre des psaumes, parce que dans les psaumes, il y a des cris de détresse. On parlait de l'évangile de la prospérité. Dans les psaumes, ce n'est pas la prospérité à tout bout de champ. On crie à Dieu, on pose des questions à Dieu. Pourquoi, Dieu, tu te tais? Dors-tu? Des choses comme cela. Il y a beaucoup de questions qui montrent que les chrétiens, ceux de l'ancienne alliance, mais ils étaient déjà pour Christ dans leur cœur, hein, ça va de soi, ont dû être éprouvés. Et leur témoignage est là pour nous encourager. Ils ont passé par des heures sombres, mais leur témoignage nous encourage profondément. Il y a une nécessité pour la gloire de Dieu que nous soyons éprouvés pour sa gloire, c'est-à-dire aussi pour son œuvre. Vous connaissez bien l'histoire de Job. D'où viennent les épreuves de Job? Elles viennent de sa fidélité. Il fallait démontrer sa fidélité. Notre Seigneur lui-même a dû être tenté, il a dû être éprouvé, et il a été éprouvé, on peut dire, jusqu'à la fin. Les hommes utilisés par Satan ont été des instruments de tentation pour Jésus. Le Seigneur Jésus a eu sa souffrance sur la terre. Elle n'est pas beaucoup exprimée dans la parole, parce que la parole ne se plaît pas à tout décrire, les sentiments comme on le voit dans certains récits. La parole veut nous le faire sentir, par contre, et nous, c'est nous qui l'exprimons, qui le retraduisons. Il y a la nécessité. Pour Job, son épreuve venait pas donc de son infidélité, mais elle venait de sa fidélité à Dieu. L'exemple de Job, on le retrouve il y a de nombreux exemples dans l'Ancien Testament. Notez que je les ai pas tous écrits pour ce matin, mais j'ai pensé au livre des Lamentations, au chapitre 3. On peut relire quelques paroles de ce texte, qui est un texte encourageant. Donc, Lamentation de Jérémie au chapitre 3. Je ne vais pas relire ce long chapitre. Mais le début, on va lire quelques versets. Lamentation 3, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. La fureur de qui ? La fureur de Dieu. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Un peu plus loin, il dit au verset 10, il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Et au verset 19, il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il commence en disant « il », après il continue par « tu ». Dans le livre de Job, on retrouve cette même expression. Job, il parle de Dieu, et puis ses amis le critiquent. C'est pas évident, l'attitude des amis de Job. Job leur répond, et puis après, il se retourne vers Dieu, qui lui ne répond pas. Dieu est dans le silence. Et le silence de Dieu est quelque chose de difficile à supporter. On veut des réponses. Et on a le droit de crier. Les psaumes expriment les cris de ceux qui sont dans la détresse. Ils ont crié. Dieu ne nous demande pas de nous taire. On peut crier. Crier dans son cœur, comme Anne. Elle, il y avait que les lèvres qui remuaient. Elle était dans la détresse. Dieu l'a exaucée, elle, assez rapidement, on peut dire. Mais elle était dans la détresse depuis un temps assez long. Donc la première chose, c'est le fait que l'épreuve est obligatoire pour le chrétien et pour... C'est Satan vous a réclamé, dans le livre de Job, c'est dit explicitement que Satan a dit, oui, c'était pour la gloire de Dieu, dans ce sens, comme certains l'ont dit dans leurs commentaires, quand Dieu dit à Satan... As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il y a d'autres traductions qui disent « As-tu fait attention à mon serviteur ? T'es passé comme ça ?» Ou bien, et c'est Dieu qui attire l'attention sur Job, l'attention de Satan. On aurait pu dire « Mais Dieu, il savait ce qui allait se passer. Il connaît le cœur de Satan à certains égards. Il connaît le mal. Dieu a des yeux trop purs pour voir le mal, on le sait, mais Dieu n'est pas étranger au mal. » Et c'est Dieu qui attire l'attention de Satan sur Job. Et Satan va dire, oui, bon, tu l'as comblé de bien, et donc c'est pour cela qu'il te sert. Donc il y a la première épreuve, on lui retire ses biens. Ses biens, ça comprend aussi ses enfants. Et la deuxième épreuve, Dieu dit, tu peux attaquer la personne elle-même, mais pas, tu ne le fais pas mourir, c'est tout. Job, on connaît sa réaction, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Sa femme, la pauvre, si j'ose dire, elle perd la tête, on peut dire, elle lui dit « tu parles comme une femme insensée », mais Job ne l'insulte pas, il dit « tu parles comme », il lui dit pas « tu es insensé hein, », au passage. Il faut savoir modérer ses propos, et là la délicatesse est rapportée, mais... La question qui était posée, c'est est-ce que Job aime vraiment Dieu ? Est-ce qu'il l'aime pour Dieu lui-même ? Ou est-ce qu'il l'aime pour les biens, la santé ? On lui retire tout. Et quand il est dit « Satan vous a réclamé », on remarque déjà qu'il n'y a pas que Pierre qui est concerné, tous sont concernés. Pour nous, la question se pose « Pourquoi est-ce qu'on aime Dieu ?» Et quand on n'a pas compris le pardon des péchés, eh bien, en fait, la question, elle va se poser. Pourquoi est-ce qu'on aime Dieu ? C'est parce qu'on comprend la gravité du péché et on comprend la grâce de Dieu. Si le péché n'a pas beaucoup de valeur à nos yeux, la grâce n'aura pas non plus beaucoup de valeur, c'est clair. Et notre témoignage s'en ressentira aussi. Le témoignage de Job a été là. Il a eu ces moments difficiles, Job... Ses amis, au départ, se sont tus. Après, ils ont commencé doucement, puis ils ont attaqué, parce que pour eux, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la refaire. Mais Job est resté fidèle. Il y a quelque chose qui revient à travers les psaumes, à travers l'histoire de Job, à travers ce qu'on a lu dans Lamentations, c'est que ces gens qui passent par des épreuves ne disent pas « ne me parlez plus de Dieu ». Parce que quand on prêche l'évangile, je pense que ça vous arrive de parler aux gens « me parlez plus de Dieu, je ne veux plus en entendre parler, j'ai prié, il ne m'a pas exaucé ». Et dans la parole, c'est « j'ai prié, tu ne m'as pas exaucé, mais tu vas m'exaucer ». Et parce que la prière, elle est juste. La prière, elle n'est pas insensée, parce que la prière, elle vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui inspire. Comment Job a-t-il pu tenir le coup dans son épreuve? Je l'ai déjà dit à d'autres, mais j'ai pensé au voyage du pèlerin de John Bunyan, quand on lui fait visiter un certain palais, et qu'on voit, il y a un mur, et je me souviens du dessin, je l'ai lu surtout quand j'étais petit, c'était une bonne lecture au passage, le voyage du pèlerin. Ça, je vous le recommande, c'est un bon livre. Et donc, on voit un mur, et puis il y a un feu qui brûle le long du mur, et puis il y a un diable qui est en train de jeter de l'eau sur le feu. Et le feu ne s'éteint pas. Et donc, le pèlerin visite ce palais. Et celui qui le guide dit, on va passer de l'autre côté du mur. Et quand il passe de l'autre côté du mur... Eh bien, on voit, il y a quelqu'un qui est en train de verser de l'huile dans le feu. Donc, le feu ne s'éteint pas. Dieu a soutenu Job dans son épreuve, c'est indéniable. Il y a eu un abandon apparent, mais Dieu l'a soutenu Job, parce que Job aimait Dieu. Job aimait vraiment Dieu. Et celui qui aime Dieu, lui est agréable, on le sait. Celui qui aime Dieu est fidèle à Dieu, il craint Dieu, non pas la crainte, la peur... Qui bloque, mais la crainte respectueuse, comme il est dit dans l'Écriture. Satan vous a réclamé, dit Jésus à Pierre et aux autres. Je ne veux pas dire que Satan a réclamé Jésus, mais Jésus a dû aussi lui être éprouvé. Et l'épreuve de ses disciples était aussi son épreuve. Ce n'est pas Dieu qui regarde de haut les gens qui souffrent sur la terre. Jésus est venu, il participait à l'épreuve. L'épreuve de Pierre, c'est une épreuve qui le touchait profondément. Parce que c'est lui qui allait être abandonné, c'est lui qui allait être renié. Le Seigneur Jésus lui se donnait pour ses disciples, mais lui... Les disciples allaient le lâcher, ils allaient l'abandonner. Dieu allait l'abandonner, les disciples aussi allaient l'abandonner. Tous l'abandonnèrent, c'est écrit dans le texte, noir sur blanc. Tous l'abandonnèrent. Alors après, il y a Pierre qui s'est rapproché avec ses efforts humains. Mais l'épreuve, elle était pour notre Seigneur, elle était dans sa vie, c'était son épreuve qu'il devait traverser. Le Seigneur l'a accepté parce qu'il fallait qu'il soit abandonné des hommes. Il fallait, tout c'était écrit dans les Écritures, et il fallait aussi qu'il soit abandonné de Dieu, ce qui est un mystère. Alors abandonné de Dieu en tant qu'homme, c'est-à-dire le médiateur qui devait être frappé par Dieu, toute la colère de Dieu qui devait tomber sur lui, pour que nous, la colère de Dieu ne tombe pas sur nous. Et on sait que toute la colère de Dieu, elle est immense, elle est... même dur à entendre à certains égards. Quand on lit l'Ancien Testament, la colère de Dieu, c'est quelque chose qui est effrayant. Nous, on est bercés dans un monde où les génocides et tout ça, c'est quelque chose de dramatique, et on a raison. Là, il y a eu le génocide juif pendant la dernière guerre, 6 millions de morts. Il y a eu bien d'autres génocides. Le premier génocide du XXe siècle, c'est le génocide des Hereros. C'était... en Afrique centrale, je ne sais plus exactement, au sud du Zaïre, je crois. 30 000 morts, quoi, simplement. Bon, ça, on oublie, le sang sèche vite dans l'histoire. C'était un communiste qui disait ça dans une chanson. Il y a les malheurs qui frappent le monde. Le Seigneur Jésus, lui, il a dû être frappé aussi. Dans sa vie personnelle. Il a supporté toutes nos épreuves et c'est quelque chose qui doit rester dans nos cœurs, qu'il est bon de garder dans nos cœurs. Le Seigneur Jésus donc devait endurer une épreuve supplémentaire, l'abandon de ses disciples. Et puis, il y a aussi, pour grandir dans la foi, il faut aussi passer par l'épreuve. C'est indispensable pour la gloire de Dieu, pour grandir dans la foi. Notre foi, on a tendance à se confier en nous-mêmes. On croit en ses propres forces. Et puis, l'expérience montre que nos forces sont faibles. Nos forces sont faibles spirituellement. Nos moyens d'action aussi sont faibles. Dans la vie, on apprend qu'on ne peut pas changer les autres, mais on peut changer soi-même devant Dieu. L'autre, il faut l'accepter comme il est. On a le droit de parler à son prochain et tout. Mais d'abord et avant tout, c'est nous qui devons faire une expérience pour grandir avec le Seigneur. Et le Seigneur permet ces épreuves. Satan vous a réclamé. Satan, donc, a des droits. Dans la parole, on peut le signaler au passage que Dieu respecte Satan. Il y a parfois des gens qui sont un peu méprisants vis-à-vis de Satan. C'est vrai que Jésus a dit parfois « arrière de moi Satan », mais on voit dans le livre de Job, il y a une discussion avec Satan. Dieu ne parle pas de façon injurieuse à Satan. Et puis dans Jude, il dit que c'est dit qu'il n'a pas parlé de façon injurieuse à Satan. Il faut faire attention. Satan, nous n'avons pas à le mépriser. Nous avons à le combattre, mais avec les armes de la lumière. Pas les armes des ténèbres, évidemment. On peut rappeler aussi que concernant Satan, ici Satan vous a réclamé, Satan était en train de créer son propre jugement. Le Seigneur Jésus est venu pour démontrer ce qu'il était et démontrer la justice de Dieu. Satan, Dieu aurait pu l'écraser comme une mouche, on écrase une mouche. Mais Dieu est juste, même vis-à-vis de Satan. Et Satan a eu le droit à un jugement. Et le prince de ce monde est jugé, dit Jésus. Il est condamné, il va être condamné, mais il est d'abord jugé avant d'être condamné. Dieu ne méprise pas ses créatures, même ses créatures rebelles, même ses créatures méprisables. Nous sommes aussi méprisables par nature, pas de la même façon que Satan, parce que Satan était dans la gloire de Dieu, mais Satan, Dieu lui a donné il a eu le droit, on peut dire, à un jugement. Dieu ne l'a pas écrasé de façon arbitraire. C'est pas un rapport de force. Il y avait le rapport de force. Dieu représente la force, la loi, la force de la justice. Mais Dieu a fait un jugement. Et ce jugement, c'est Jésus-Christ qui l'a accompli à la croix. Parce qu'il a démontré l'iniquité de Satan. La culpabilité de Satan a été démontrée. Avant de condamner quelqu'un, il faut démontrer qu'il est coupable. Alors contre les hommes, contre Job. Job était quand même un pécheur. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même. Il dit, si Dieu il me cherche des ennuis, sur 1000 choses, je ne pourrais pas répondre à une seule. Et Job savait bien ce qu'il en était de son propre cœur. Jamais il s'est dit pur, le juste, parfait, absolu. C'est Dieu qui le dit à Satan. Mais Job lui-même sait, il se défend d'un certain nombre de crimes quand même. Quand on n'a pas péché, il ne faut pas dire qu'on a péché sous prétexte qu'on est des pécheurs. On peut avoir des mauvaises pensées, mais ce n'est pas parce qu'on a eu des mauvaises pensées qu'on les a mises à exécution. Au passage, les tentations, l'adversaire peut nous mettre des tentations dans la tête. Il ne faut pas confondre les tentations avec le péché. Le chrétien doit résister au péché. Et on lit « Satan vous a réclamé », on sait que le chrétien est tenté chaque jour. C'est pour cela qu'il faut avoir une vie quotidienne avec le Seigneur. À travers ce passage, on voit que Jésus est le bon berger aussi. Jésus dit « J'ai prié pour toi ». Il dit ça spécialement à Pierre. Le Seigneur Jésus, dans Jean 17, on connaît ses prières. On peut relire d'ailleurs quelques versets. Jean 17, c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Thank you. Donc, on peut lire. Je ne retrouve plus les versets où je les ai notés. C'est verset 9. On peut dire. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Le Seigneur Jésus priait pour ses disciples. Et sa prière, là, a été particulièrement ciblée concernant le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus prie pour nous. Il y a dans Romains aussi, au chapitre 8, on peut lire quelques versets. D'abord au verset 26-27, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Et puis au verset 34, au verset 33-34, on va dire « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ intercède pour nous. » On sait qu'il est l'avocat, notre avocat auprès de Dieu. Le Seigneur est le bon berger. Il dit à Pierre, il avertit Pierre. On ne connaît pas tous les détails des tentations, mais Dieu nous avertit. On a des avertissements généraux, et c'est bien d'en tenir compte. Et puis parfois, on peut avoir des avertissements particuliers pour nous. Le Seigneur Jésus dit, donc, Satan a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Le Seigneur priait. Le Seigneur était un homme de prière, on peut dire. Il passait des nuits dans la prière. C'est quelque chose qui m'arrête toujours. Quand il a nommé ses disciples, il a prié, mais à bien d'autres moments, il était dans la prière. Le Seigneur Jésus priait pour son œuvre. Il priait aussi pour être en communion avec son Père, parce que le Seigneur Jésus ne voulait rien faire sans la volonté de son Père. Il était entièrement donné à son Père. Le Père lui avait confié toute l'œuvre. Il voulait faire toute l'œuvre. Il n'était pas venu pour faire sa volonté, il le dira. Le Seigneur Jésus, donc, encourage Pierre. Il lui dit, j'ai prié pour toi. Pierre ne comprend pas, et ne va pas comprendre ce qui va se passer. Il dit, mais je suis prêt à mourir pour toi, je ne te renierai pas. Le Seigneur Jésus connaît la nature de l'homme. J'ai prié pour toi. Et un peu plus loin, le Seigneur Jésus, quand il sera à Gethsémané, il continuera d'exhorter les disciples. Jésus sait qu'ils vont l'abandonner, mais Jésus continue. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il y a quelque chose d'étonnant, mais qui montre que ce n'est pas des mécaniques humaines qui sont là, c'est des principes spirituels bien plus profonds, où on voit que Dieu connaît toutes choses. Jésus est le bon berger. J'ai prié pour toi. Jésus donc priait pour l'ensemble de ses disciples, mais en particulier pour nous. C'est bon de savoir cela. On a chanté au début « Maître, entends-tu la tempête ?» et ses terribles accents. On traverse des tempêtes. Parfois, on peut parler avec des frères ou des sœurs pour parler de ces tempêtes. Puis parfois, il faut les affronter tout seul. Ce n'est pas toujours évident, mais on peut se souvenir. Le Seigneur permet la tempête, le Seigneur permet l'épreuve, il donne aussi le moyen d'en sortir. Le Seigneur Jésus dit « J'ai prié pour toi ». Il y a quelque chose de personnel. Il dit « afin que ta foi ne défaille point ». Pierre était un croyant. On le sait, ça a été évoqué d'ailleurs dans une prière, c'est dans Jean 6, la fin du chapitre. Quand, après la première multiplication des pains, au verset 67, après que quelques disciples aient abandonné Jésus, donc Jean 6, verset 67, il est dit « Jésus donc dit aux douze, « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Pierre n'avait sans doute pas tout compris, mais il avait compris une chose essentielle. Le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Philippe, on le sait, aura des problèmes pour comprendre tout ça. Il le croyait, certainement, mais quand Jésus lui parle, « Montre-nous le chemin », Jésus dit « C'est moi qui suis le chemin ». On pourrait dire « Les disciples, ils avaient bien des difficultés ». C'est vrai que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Jésus est le bon berger, il connaît ses brebis. Ses brebis le connaissent aussi. Mais le Seigneur Jésus connaît ses brebis. C'est important d'être une brebis du Seigneur. Ça, c'est le point, c'est-à-dire d'avoir d'abord donné sa vie au Seigneur. Donner sa vie, c'est un acte simple. Ça n'a pas lieu de faire beaucoup de démonstrations. Mais c'est un engagement sincère. On comprend peut-être un tout petit peu de la parole de Dieu, mais on en comprend suffisamment. Le brigand sur la croix, qu'est-ce qu'il connaissait de l'Évangile ? Il venait de découvrir, il a compris que Jésus était le roi. Il a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Il a compris que Jésus était juste. Il a compris les éléments essentiels du salut et il a eu la promesse. Jésus lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». On en parlait, c'était mercredi soir en étude biblique, il y en a qui posent des questions, j'entendais quelqu'un qui disait « qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Le Seigneur Jésus, il n'était pas encore ressuscité, etc. » Mais Jésus dit « aujourd'hui ». Il y a des choses qui peuvent nous surprendre, mais Jésus dit, c'est dans Jean 3, il parle du Fils de l'homme qui est dans le ciel, au présent. Le Seigneur était sur la terre, mais il était aussi dans le ciel, et on voit aussi le riche dans Lazare dans le sein d'Abraham. Jésus parle, c'est pas une histoire inventée pour donner un message, c'est pas quelque chose de joli, c'est quelque chose d'important. Et Job auquel je faisais allusion, c'est je sais que mon rédempteur est vivant et que dépouillé de ma chair, je verrai Dieu. Et puis Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Enfin bon, il y a beaucoup de passages dans l'Écriture. Il y a aussi, on voit Élie et Moïse. Alors Élie, lui, il n'était pas mort. D'ailleurs, certains se posent des questions. Qu'est-ce qui est devenu son cadavre, etc. Et tout. Ils ont voulu le chercher. Et puis le prophète a dit, c'est pas la peine. Ils ont dit, si. Après, il leur a dit, qu'est-ce que je vous avais dit ? Bon, les gens s'entêtent. C'était des braves, hein. C'était pas des vilains méchants. C'était. Mais bon, on est comme ça un petit peu. Et puis Enoch aussi, lui, il n'est pas mort. Dieu est le Dieu des vivants. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle merveilleuse promesse. Et Paul dit, pour moi, être auprès de Christ, c'est de loin le meilleur. Pour nous, ce sont des paroles qui sont encourageantes. Le Seigneur Jésus, il est là, le bon berger. Il connaît ses brebis. Ses brebis aussi le connaissent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on connaît tout. Et l'expérience de Pierre nous le montre à bien des égards. Mais Dieu dit que ta foi ne défaille point. On pourrait dire, mais dans quel sens est-ce que la prière de Jésus a été exaucée ? Que ta foi ne défaille pas. Pierre va renier le Seigneur. Je me disais, vérifie quand même, c'était en réfléchissant, il a vraiment renié, c'est Jésus qui le dit, et le texte le dit. C'est pas nous qui disons que Pierre a renié, c'est le texte biblique. Renier le Seigneur est quelque chose de dangereux, quelque chose de grave. Ce n'est pas quelque chose de léger dans l'Écriture. Si quelqu'un me renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Alors comment faire la jonction entre des paroles qui semblent contradictoires. D'un côté, le Seigneur dit « Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père ». Et puis, il faut réfléchir quand on lit les Écritures. On sait qu'il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui ont des actes d'incrédulité. Il ne faut pas confondre être un incrédule au sens absolu du terme et avoir un acte d'incrédulité. Pour donner un exemple, je prendrai celui de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il est dans le temple, c'est un ange qui est devant lui, qui lui annonce la naissance d'un fils. Il est vieux, les âges sont dépassés pour avoir des enfants, et il ne croit pas. Mais Dieu l'avait choisi, Dieu ne le rejette pas, il lui dit simplement, tu n'auras pas le privilège de l'annoncer, en fait c'est un peu ça, tu vas devenir muet, il ne pourra pas l'annoncer, il ne pourra plus que l'écrire, les gens vont comprendre qu'il a eu une vision, ils n'auront sans doute pas les détails, la Bible n'en donne pas trop, mais Zacharie n'était pas un incrédule. Zacharie a eu un acte d'incrédulité. Et là, il faut faire attention à l'adversaire, parce que l'adversaire peut se glisser ici pour nous attaquer. Tu n'as pas cru. Et combien de fois est-ce que ça nous arrive de ne pas croire à l'Écriture ? On dit « je crois », quand tout va bien, ça peut sembler facile. Il y a des moments d'obscurité, il y a des tunnels. Dans la vie chrétienne, je me souviens d'avoir lu... un récit qui était un peu triste, on peut dire, c'est la dernière âme. Ça se passe en Allemagne, à l'époque de la guerre de 30 ans. C'était un pasteur qui est... un pasteur donc luthérien, mais un homme qui craignait Dieu. On n'est pas luthérien, on a des doctrines différentes, c'est vrai, sur des points importants, mais il y a eu quand même, dans le monde protestant, des gens qui ont eu la crainte de Dieu, qui ont été prêts à mourir pour le Seigneur plutôt que de le renier. Lui, c'était pendant la guerre de 30 ans, il vivait dans un petit village isolé, le village de Waldorf, dans le Hesse, je crois c'était. Et c'était un village qui était isolé des grandes routes, la guerre ne les avait pas touchés. Un jour, la guerre arrive par la peste en fait. Non, c'est d'abord, il y a la guerre, je m'embrouille pas, je ne l'ai pas relu pour ce matin, il va y avoir la peste qui va venir, et puis il y a la guerre aussi qui va rentrer, les soldats qui vont rentrer dans le village, qui vont tout tuer. Lui, il était au champ avec son fils qui était malade, il avait la tuberculose, et il y avait sa femme et sa fille qui étaient au village quand il revient. C'était le gros massacre. Et il va rentrer dans un tunnel. Une période d'ombre, une période terrible. C'était l'épreuve de la foi, mais qu'en savait-il ? Le ciel est bouché, le ciel est noir. Mais Dieu va le secourir. Il a failli commettre un crime, ce pasteur. On peut être pasteur et être prêt à commettre des crimes dans les moments de désespoir. Il faut faire attention. Mais Dieu l'a secouru. Il y avait un moment donné, il restait plus que quelques... Il y avait la peste qui était intervenue. Pratiquement tous les villageois étaient partis, il ne restait que des vieillards. Et il restait... Lui, il était dit, tant qu'il y a des gens dans le village, je reste. Je suis pasteur, je reste. C'était de la fidélité. Et il restait quelques vieillards. Et puis, il y avait son fils malade qui était là. Et il a pris... C'était la nuit, il a pris une hache. Il a voulu en finir avec son fils. Son fils dormait. Et au moment où il lève la hache, le fils se réveille et dit « Mon papa chéri ». Il a compris que c'était Dieu qui parlait. Ce n'était pas simplement un gamin. Dieu l'a arrêté, il a repris l'espoir. Ainsi donc, il ne faut pas se décourager dans les moments de désespoir. C'était un croyant. C'était pas un incroyant, c'était un croyant. Et l'épreuve peut être extrêmement violente. On a parfois, vous savez, j'ai lu des romans évangéliques quand j'étais petit, parce qu'on m'en donnait, c'était facile. Les gens se convertissaient tout de suite dans les romans évangéliques. Quand j'ai été sur le terrain, les gens ils tombaient pas à genoux devant moi, hein, je peux vous dire. C'était pas comme ça que ça se passe. Les gens, ils ont de la contestation, des remarques et tout. Mais c'était un homme craignant Dieu. Et Dieu va le sauver encore, d'ailleurs, parce que... Son fils va finir par mourir quand même de la tuberculose qu'il avait. C'est la dernière âme, d'ailleurs. C'est pour ça que ça s'appelle la dernière âme. Donc il dit, c'est la dernière âme. Les vieux étaient morts. Son fils était mort. Et il va voir il avait oublié la chèvre qui était là. Il la retrouve. Elle s'était étranglée en tirant sur la sangle. C'est un livre qui était écrit en vieux français. Hein. C'était pas évident à lire. Mais bon, on m'avait mis ça entre les mains quand j'étais gamin. Ça me donnait un autre regard. Évidemment que le regard un peu facile qu'on a de nos jours. Et ça m'a marqué, on peut dire. C'est traduit de l'allemand. Mais Dieu l'a gardé, cet homme. Finalement, il est parti. Le village était vide. Et il s'est allongé, c'était l'hiver, donc c'est à Noël, hein, que son fils est mort le jour de Noël. Et puis là, lui, il s'est allongé au bord de la route, il a rejoint la grande route, parce qu'il était à plusieurs kilomètres, et puis là, il s'est étendu sur la route, parce qu'il était claqué. Et puis un voyageur, un commerçant l'a ramassé, et puis c'est ça qui fait qu'il a eu la possibilité d'écrire son expérience. On sait que ces expériences du passé se retrouvent actuellement. Il y a bien des gens qui souffrent dans le monde. Et ce n'est pas des gens qui sont forcément injustes. Mais Dieu veut que par les souffrances, nous apprenions à nous confier en lui. Quand je pense aux souffrances, on pense à nos frères persécutés, mais on pense aussi aux peuples qui sont dans la violence, aux Zaïres en particulier. Je discutais avec certains, en 20 ans, ça fait entre 6 et 10 millions de morts quand même. On n'en parle pas trop dans les médias. La souffrance, elle est là. Il y en a qui se décarcassent au milieu de toute cette souffrance. Le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur regarde du haut des cieux. Le Seigneur n'est pas indifférent à la souffrance, mais le Seigneur la permet. Et ici, pour Pierre, donc, il y avait l'épreuve qui était obligatoire. J'ai prié pour ta foi, le Seigneur, afin que ta foi ne défaille point. Quel est le point où aussi l'homme peut chavirer? C'est quand on a péché, il y a la souffrance qui vient de l'extérieur et il y a la souffrance qui vient de l'intérieur. On peut pécher dans la vie. Et le diable peut en profiter pour nous séparer du Seigneur en disant « tu as péché ». Et ce n'est pas faux. Le diable ne dit pas que des mensonges, mais il utilise parfois la vérité de façon tordue. Et le Seigneur nous rappelle qu'il est au-dessus, qu'une des choses les plus importantes, c'est de croire au pardon de Dieu. Le pardon de Dieu face à notre propre iniquité. On ne se vautre pas dans le péché quand on est chrétien, mais parfois on a des drames intérieurs. Donc des gens peuvent ne rien voir de l'extérieur, mais il y a des drames intérieurs où l'adversaire attaque. On a dit des choses, on ne les a pas faites, et puis Satan dit « tu ne l'as pas fait, tu avais dit que tu allais le faire, tu n'as pas fait, etc. » Et ça peut créer des troubles intérieurs concernant la relation avec Dieu. L'expérience de Pierre est pour nous un puissant encouragement. Pierre va dire, quand tous te renieraient, moi je ne te renierai pas. Pierre était sûr de lui. Parfois on est sûr de nous. Et puis ça vient, comment dire, ça vient de charnel, on ne va peut-être pas utiliser les termes les plus violents, mais, et puis on ne le fait pas. On veut parler, et puis on se tait, ou on devrait se taire et puis on parle des choses comme cela et puis parfois des choses plus graves. L'adversaire peut attaquer et pour Pierre, quel a été son salut? D'abord, le Seigneur Jésus a prié pour lui pour que sa foi ne défaille point, c'est-à-dire qu'il reste ferme quant à sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Nos péchés, oui, nos péchés sont graves. La défaillance de Pierre est grave. Le Seigneur Jésus a regardé Pierre, mais il ne l'a pas regardé pour le condamner, il l'a regardé pour que Pierre se souvienne de lui. ce souvenir. Pierre, quand le Seigneur Jésus l'a regardé, il s'est souvenu de ce que le Seigneur Jésus avait dit. Il l'avait oublié un certain temps. La peur peut faire oublier. Pierre, c'était la peur. Je ne regarde pas les films, j'aime pas les films, parce que j'ai des films qui m'ont sali quand j'étais gamin. Et j'aime pas les films, en règle générale, faites ce que vous voulez. Moi, je sais que je m'en abstiens au maximum. Ouais, un clip vidéo, des trucs comme ça, ça peut passer, mais il y a des choses, ça vient parfois du monde. Mais je me souviens d'avoir vu un film sur la dernière guerre, on voyait la terreur des gens quand il y avait la Gestapo dans la rue qui procédait à des arrestations. C'était imité, bien sûr, je ne crois pas que c'était pris sur le terrain, peut-être ça l'était, je ne me souviens plus du film, je me souviens que d'une séquence, c'est du regard d'une personne terrorisée face à la police. Et Pierre, c'est face à une servante qu'il est terrorisé. Pourquoi ? Parce que la dénonciation, ça existe. Et la dénonciation, c'est quelque chose de terrible, et Pierre a dû faire face à cela. Et tout a été chamboulé dans sa tête, si sûr de lui, face à une femme qu'il regarde, c'est de ces gens-là. Je ne sais pas sur quel ton elle l'a dit, remarquez, il ne faut pas tomber dans le roman. Mais Pierre, il a craqué une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Le coq va chanter deux fois. Entre parenthèses, il y a des gens qui disent « Ah, il n'y a eu pas de coq à Jérusalem à l'époque, ceux qui nient la Bible, etc. » Tout ça, c'est des inventions. Alors, c'est vrai que... C'est une parenthèse. Hein, les coqs n'avaient pas le droit de se promener dans les rues, mais ils ont retrouvé dans, je ne sais plus, les Talmuds, etc., comme quoi on avait le droit d'avoir des coqs dans les cours, quand même. Voilà, ça c'est une parenthèse. Donc, quand la Bible dit qu'il y a un coq qui a chanté, il y avait bien des coqs dans le coin. C'était un animal, hein, juste un animal, une bête qui nous saoule la nuit quand on veut dormir, etc. Enfin, bon, bref. C'était prévu dans le plan de Dieu, la création tout entière était là. Eh bien, le coq a chanté, Pierre n'a pas réagi, on peut dire. Est-ce qu'il avait encore des oreilles ? Quand la peur vous prend, il y a des choses qui deviennent difficiles. Mais le Seigneur a regardé Pierre et Pierre s'est souvenu de ce que le Seigneur Jésus avait dit. Il a compris que le Seigneur Jésus connaissait toutes choses. Il a compris que Jésus était le Sauveur. Il est sorti, il a pleuré amèrement. C'était les larmes de la repentance. Judas, lui, ça a été tout à fait un autre cas. Judas, qu'est-ce qui était dans son cœur ? Ça reste difficile, on a voulu analyser. C'est vrai que l'amour de l'argent, il semblait être là. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il faut être prêt à lâcher, savoir lâcher. Dieu peut nous donner de l'argent. Abraham était riche, mais Abraham n'était pas attaché à l'argent. Vous lisez... après la victoire contre Sodome et des ennemis de Sodome et Gomorre, il dit « Je veux rien du roi de Sodome. » Et même quand il a dominé, quand il a fallu partager le pays entre lui et son neveu, il a dit « Choisis les riches, c'est pas comme ça en général qu'ils agissent. » C'est tout à fait une autre mentalité. Mais donc l'argent n'est pas mauvais, mais comme le dit Jésus, ceux qui s'attachent aux richesses, qu'est-ce qu'il avait Judas pour 30 cycles d'argent ? 30 pièces d'argent, pardon, il a trahi le Sauveur. Pierre, c'était autre chose. Il y a un mystère. Il y a un mystère dans l'élection. Dieu avait choisi Pierre et Jésus priait pour sa brebis. Et la brebis s'est souvenue. Le souvenir est quelque chose d'important dans la vie du chrétien. Je relisais un sermon d'un certain Eugène Bercier, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un prédicateur protestant, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il a été au Temple de l'Étoile. Ces sermons, bon, il y a toujours des choses qu'on peut contester hein, dans tous les sermons, mais globalement, je dois dire que ça m'encourage, il y a une fermeté, il y a une vision de la nature de l'homme aussi, qui est bien encourageante. C'est quelqu'un qui avait un fardeau en tout cas, il était dans le monde protestant, et il savait que tout n'était pas parfait dans le monde protestant, parce que quand il leur prêche, il dit « Souvenez-vous de ce que vos pères ont vécu, et vous, ne soyez pas des tièdes. » Je résume le sermon, c'était d'ailleurs « Souviens-toi ». Et il a écrit bien d'autres sermons qui se trouvent d'ailleurs sur Internet, dans Bibliothèque chrétienne. Si vous connaissez ce site Internet, il y a beaucoup de choses, entre autres ça. Souviens-toi, c'était ce qu'Abraham disait aux riches, mais là c'était trop tard. Souviens-toi que tu as eu la jouissance sur la terre. Et maintenant, maintenant c'est terminé. Le riche va parlementer avec Abraham. Il dit « mon fils, hein, Abraham ». Mais le riche, il n'est pas du bon côté, hein, ça c'est clair. Ça ne veut pas dire que c'était un fils d'Abraham selon la chair, hein, pas de souci. Mais ça ne suffit pas, la chair. Il faut l'esprit. Souviens-toi, il est parti de cela. Le souvenir est quelque chose d'important. On sait que, je regardais quelques passages des Écritures, l'homme oublie vite, par exemple les chansons quand il a été libéré de la prison où il était avec Joseph, il l'a oublié. C'est Joseph qui lui a annoncé, qui lui a donné l'interprétation de son songe et il l'a oublié. La parole, elle, nous encourage à nous souvenir. L'Apocalypse le dit au chapitre 2, au verset 5, c'était à une église, souviens-toi d'où tu es tombé. L'église d'Éphèse, quand on lit ce que le Seigneur Jésus dit au départ, il dit, mais c'est quand même, c'est drôlement encourageant ce que Jésus dit, je connais tes œuvres, ton amour, ton fidèle, tes œuvres... ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et pour nous chrétiens, c'est bien de nous encourager. C'était l'église primitive, dispersée là-bas en Asie, dans un monde qu'on ne connaît pas trop bien. Il n'y avait pas toute une série de choses, mais il y avait déjà le cœur de l'homme était le même. Souviens-toi, ça c'est important pour nous. Se souvenir en particulier de la grâce de Dieu. Se souvenir du sacrifice de Jésus. Jésus est mort pour des pécheurs. C'est pour cela que nous sommes réunis ce matin. C'est parce que nous avons été sauvés. Je l'espère, chacun l'est ici. Sauvés, ça... parce qu'on a fait l'expérience... déjà de sa propre corruption, mais aussi de la corruption du monde. Quand on se donne au Seigneur Jésus, c'est on quitte le monde. C'est-à-dire, on a un regard sur le monde qui change. Ce monde qui semble être plaisant, qui semble plein de joie, avec des sourires commerciaux, vous en avez partout, partout, partout. Derrière ce monde, je vois des sourires commerciaux, je me dis, des jolis minois et tout ça. Je me dis, mais quand on annonce l'Évangile, les visages se ferment. Le minois plein de sourires, il change et les bouches s'ouvrent. Et quand les bouches s'ouvrent, on regarde qu'est-ce que c'est. Et parfois, c'est des poubelles. On entend des gens bien habillés et tout, cravate, etc. Ça ne suffit pas. Il faut que le cœur soit changé. Et le chrétien, il vit quand on se convertit. Alors, moi, dans mon expérience, ça n'a pas été effectivement du jour au lendemain que j'ai tout compris. Et j'ai encore des choses de toute façon à comprendre, mais le monde ne peut pas aimer le Seigneur. Et le chrétien, il quitte le monde pour se donner au Seigneur, parce que là est la sécurité. Le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver. Toute sa vie a été axée sur le salut. Tout le plan de Dieu, on peut dire, a été axé sur le salut de l'homme. La croix a été prévue dès le départ, avant même la fondation du monde. La croix était déjà prévue. C'est quelque chose qui peut nous dépasser au niveau de notre compréhension humaine, mais ce n'est pas par hasard que les choses se sont produites. Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Dès le départ, la postérité de la femme t'écrasera la tête au moment de la chute, l'annonce de la souffrance du Seigneur est là, et quand Jésus arrive sur la terre, on connaît ce que Siméon va dire à Marie, une épée te transpercera l'âme, et puis quand Jean-Baptiste présente Jésus au peuple, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus était venu pour mourir pour nos péchés. Et c'est sur cette base que nous pouvons nous appuyer, nous souvenir de la parole. C'est pour cela que lire les Écritures, c'est un puissant réconfort, c'est un puissant encouragement contre les attaques de l'adversaire qu'on a tous, d'une façon ou d'une autre. La parole de Dieu nous encourage. Et je pense que Pierre connaissait les psaumes. La parole de Dieu nous rappelle, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres. La base, c'est la foi. Les œuvres sont la conséquence et la preuve aussi de la foi, parce que la foi doit se démontrer. Il y a un côté où on sera jugé aussi sur nos œuvres. Ça, c'est clair. Dans l'Écriture, quand on lit un certain nombre de passages où Jésus parle, les paraboles des mines, etc., les gens, on voit la foi, comment elle s'est exprimée. Les uns ont travaillé, les autres, l'un n'a rien fait. Mais la foi est la base. La foi, c'est d'abord la foi dans le pardon de Dieu. La foi, pas dans un pardon facile. Il y a une lutte personnelle. Chacun doit être au clair là-dessus. Dieu pardonne le pécheur. Mais il y a quelque chose qui est limpide et qui nous donne la paix, la vraie paix. Et un bonheur qui n'est pas un bonheur superficiel, ce n'est pas le bonheur donc des médias, c'est le bonheur qu'on a intérieurement. Ce bonheur qu'avaient les serviteurs de Dieu de l'Ancienne Alliance, les prophètes, qui d'ailleurs n'avaient jamais choisi d'être prophètes. Quand on les voit souvent, les prophètes, c'est « choisis quelqu'un d'autre, hein, pas moi, j'ai pas envie d'être prophète ». C'était pas la vie facile, prophète. Mais Jérémie disait « je voudrais me taire, je peux pas me taire, quelque chose brûle dans mon cœur ». C'est plus fort que moi, pas dans le mauvais sens. Et puis la foi, c'est aussi « tu es mon refuge, ô Éternel ». La foi, pour Pierre, ça a été cela. Le Seigneur Jésus va lui parler. Après, vous connaissez l'épisode de Jean 21. Et il y a aussi le fait, si tu gardais le souvenir des iniquités, ô Éternel, qui pourrait subsister ? Dieu oublie nos iniquités. Il y a un côté où il faut faire attention de ne pas abuser de ce texte-là. Mais ce texte est juste quand même. Par contre, nous, je sais que c'est bien de se souvenir du mal qu'on a fait et de la grâce. Pas pour se souvenir du mal, pour se perturber, mais pour se souvenir de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul disait, moi j'étais un blasphémateur. J'ai de la peine à imaginer. Pour moi, c'est un peu abstrait quand on dit Paul blasphémateur. Il disait, il forçait les autres à blasphémer, mais il dit, j'étais blasphémateur. On ne connaît pas les blasphèmes qu'il a prononcés, sans doute contre le Seigneur Jésus. Et ce n'est pas la peine non plus de tout raconter. La parole de Dieu est notre sécurité face à l'angoisse. L'angoisse... Certains sont plus confiants. On a chacun notre caractère, hein, aussi. Moi, je suis plutôt angoissé de nature. Dans la parole, les psaumes le disent, Dieu s'adresse aussi à ce type de personnes. Hein, il y a des gens qui sont plus... Mais notre assurance ne vient pas de nous. Notre assurance, elle est en Dieu et en Dieu seul. Il est notre sécurité. Et sur cette note-là que je voudrais terminer. C'est le Seigneur Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons rien contre le mal tout seul. Nous sommes incapables. Mais dans le Seigneur, en Christ, dans le Seigneur, nous pouvons vaincre l'adversaire. Et Satan peut nous cribler. Nous savons qu'il ne tombera pas un grain à terre, comme le dit Amos, je crois, le prophète. Il fallait que le peuple soit éprouvé, mais il ne tomberait pas un grain à terre. Que Dieu nous aide dans notre témoignage. Nous avons à témoigner dans ce monde, et c'est une grâce que le monde voit quel est notre attachement, quels sont nos principes, quelles sont nos priorités, quels sont les axes de nos vies. Mais qu'on se souvienne de la parole de Jésus, j'ai prié pour toi. On va prier avant. Pour terminer ce culte, ce message. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que ta parole ne cache pas la misère de l'homme. Ta parole ne nous séduit pas, mais ta parole nous sauve. Nous te remercions parce que tu as donné ton Fils. Ce n'est pas un ange que tu as envoyé, c'est ton Fils même, le Fils éternel, pour mourir pour des hommes perdus, pervers, au cœur tordu que nous étions. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Seigneur, nous le savons dans nos cœurs, que notre justice ne vaut rien devant toi. Mais nous savons que tu as donné ton Fils pour nos péchés. Nous savons que tu nous as aimés en lui. Nous te remercions parce que tu veilles sur nous, que nous marchions avec toi chaque jour de notre vie, que nous nous souvenons que tu es notre secours, que si tu permets les épreuves, tu nous donneras aussi le moyen d'en sortir, d'être victorieux. Donne-nous de marcher dans la confiance en toi, de marcher dans l'amour de ta parole, l'amour de notre prochain aussi. Donne-nous de la sagesse dans tout ce que nous faisons, car tu connais nos défauts, tu connais nos limites. Seigneur, utilise-nous pour ton œuvre. Veuille bénir l'Église ici qui se réunit. Veuille bénir ce troupeau. Veuille bénir ses responsables. Seigneur, que leur témoignage puisse les encourager aussi. Que des âmes puissent encore se donner à toi, ici dans ce secteur, comme à Colombes et dans notre France, qu'il y ait un réveil spirituel, que tes églises reviennent à toi. Tu vois les directions prises par certaines. Seigneur, toi, tu peux faire cette œuvre. Ne retire pas tes églises, mais qu'elles se réforment. Ô notre Dieu, qu'il y ait un retour pour toi. Nous te demandons de nous garder, de nous raccompagner alors que nous nous séparons et que nous te glorifions en tout par Jésus.